Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut à tous, c'est Cyril Morin.
Salut à tous, c'est Julien Pereira.
On est mercredi, on va parler mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato. Je crois que c'est déjà le quatrième épisode de cette édition été 2022. Comment ça va, Julien, en ce mercredi?
Écoute, ça va très bien. Très heureux pour l'émission, de faire cette émission avec toi. Et un petit peu sous pression pour ce qui va se passer à la fin.
Oui, pour ce qui va se passer à la fin. On rappelle que je mène 2-1 au Mercacuiz et que c'est l'enjeu principal de cette émission. On va quand même donner les autres enjeux et l'autre enjeu majeur. C'est ce dont on va parler, Julien, dans l'émission. C'est quoi le programme aujourd'hui?
Eh bien, écoute, on a un très beau premier sujet qui parle de Neymar. Ouais. On va se poser une question très simple. Est-il devenu invendable?
On enchaînera avec un joueur qui, lui, est libre comme l'air, mais qui continue de négocier avec le FC Barcelone. C'est évidemment Ousmane Dembélé. Que doit faire Ousmane Dembélé pour la suite de sa carrière? FC Barcelone, Chelsea, on explorera chaque piste à fond.
Et puis, troisième sujet, on va parler d'un championnat en particulier, à savoir la Première Ligue, parce qu'il y a des sommes folles qui circulent pour des joueurs anglais qui ne valent peut-être pas tant. Donc on va se poser la question, pourquoi la Première Ligue est dans un autre monde et pourquoi ça risque de durer un petit bout de temps?
Voilà, donc Mercredi Mercato, vous le savez, est un podcast à retrouver chaque mercredi, tout l'été, sur toutes les bonnes plateformes. Notez-nous, commentez, venez nous chercher sur les réseaux sociaux pour partager avec nous et agrandir cette communauté Mercato. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr pour voir les meilleurs moments de l'émission. On a Paul en studio, un petit stagiaire, qui est supporter du Paris Saint-Germain, Julien. Avant de passer au gros sujet Neymar, on va faire peut-être un petit tour parce que voilà, le Mercato s'affole. Un peu un petit flash Mercato, on aime bien vous donner des infos comme ça, toutes fraîches. En ce mercredi matin, Julien, est-ce que tu as trois infos à me donner sur le marché?
Allez, je t'en donne trois. La première, c'est Sven Botman qui quitte Lille pour Newcastle. Ouais. Alors, le montant n'a pas été révélé, mais c'est a priori 40 millions d'euros.
Très belle.
Deuxième information, Tyrell Malacia, latéral gauche de Feyenoord, qui était tout proche, de l'Olympique Lyonnais la semaine dernière, ouais, qui va finalement s'engager avec Manchester United pour 15 millions d'euros. Et puis, troisième information, elle est vraiment toute fraîche celle-ci aussi, c'est celle de Xavi Simons qui quitte le Paris Saint-Germain. Alors, on pensait qu'il prolongerait au PSG, finalement. Il s'est engagé avec le PSV Eindhoven.
Avec une possible option d'achat qui fait un petit peu discuter. Voilà, voilà pour le flash Mercato. Julien, on arrive sur le premier gros sujet de ce mercredi Mercato. La question, elle est toute simple. Neymar est-il invendable? Pourquoi on a choisi de se concentrer sur le cas Neymar, Julien? Évidemment parce que les propos de Nasser El Khelaifi aux Parisiens la semaine passée continuent d'entraîner des conséquences. On va vous les rappeler. Nasser El Khelaifi qui était interrogé sur le cas Neymar et qui disait « Ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Ils doivent être à 100%. Il faut redevenir humble. Il faut changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui font basculer un match. » Bah, difficile pour Neymar de ne pas se sentir visé. La conséquence, c'est que Neymar lui-même étudie désormais la possibilité de quitter le Paris Saint-Germain. C'est RMC qui nous a appris ça ce week-end. On va se poser une question, Julien. Déjà, est-ce que Neymar fait encore partie du projet Paris Saint-Germain? Et surtout, que doit faire Paris avec Neymar?
Clairement, ces propos que tu viens de citer de Nasser El Khelaifi, ils sont intéressants parce qu'ils mettent finalement Neymar dans une position dans laquelle il n'a jamais été au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est-à-dire, soit tu changes, soit tu pars. Grosso modo, c'est la solution qui lui est proposée. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on va, ça va vraisemblablement déboucher sur quelque chose de nouveau. L'entourage de Neymar fait fuiter dans la presse, notamment espagnole, qu'il a été vexé par ses propos. Ouais. Et qu'il souhaite maintenant aller voir ailleurs et pourquoi pas décrocher le Ballon d'Or dans un autre club pour montrer, pour prouver sa valeur. On est quand même aujourd'hui plus proche du Neymar reste que du Neymar part. On va avoir l'occasion d'en reparler juste après. Et donc, ça sera intéressant de voir comment Neymar va réagir à ses propos sportivement. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que vraiment il va mettre le PSG au centre de sa carrière, ce qui n'était pas le cas depuis qu'il est arrivé au PSG? Et si ce n'est pas le cas, s'il ne change pas, si Neymar ne revoit pas ses habitudes ou en tout cas sa rigueur, comment Christophe Galtier va le gérer? Parce que Christophe Galtier, c'est probablement la tâche sur laquelle il sera le plus attendu. C'est comment gérer Neymar, comment faire pour l'impliquer et surtout, s'il n'est pas impliqué, comment il va faire pour le mettre sur le banc, tout simplement. Donc, dans tous les cas, on est dans une situation assez intéressante et je ne serais pas surpris que Neymar soit encore là en début de saison prochaine parce que, on va en parler, Cyril, il y a une situation économique qui est complexe.
Ouais, il y a quelque chose de nouveau par rapport à 2019, l'année où il avait fait un peu le forcing pour quitter le Paris Saint-Germain. C'est qu'en 2019, le PSG n'était pas vendeur. Cette fois-ci, et Neymar envisage un départ et le PSG voit son départ d'un bon oeil. Sauf que, il y a une troisième problématique qui rentre en jeu, c'est que Neymar, tout simplement, il est hors marché. Le salaire qu'il touche actuellement, 38 millions annuels, fait de lui le troisième joueur le mieux payé au monde. On sait que du côté de Neymar et du côté du clan Neymar, ça compte beaucoup dans les négociations. Et imaginer Neymar avec un contrat à la baisse, c'est presque impossible. Ou en tout cas, c'est pas la vision des choses du père de Neymar. Il a un contrat qui est blindé jusqu'en 2027, qui va même être prolongé automatiquement jusqu'en 2027. Et il a une situation sportive qui fait qu'il n'y a aucun prétendant aujourd'hui qui peut se permettre de mettre ce salaire et l'indemnité de transfert réclamée par le Paris Saint-Germain, ça peut aller de 50 à 100 millions, allez, si la fourchette est très très grande. Donc Neymar, il est hors marché, mais pas pour les bonnes raisons, parce qu'en fait, personne ne sera en mesure de lui offrir ce qu'il réclame, et surtout, sportivement, bah, personne ne peut mettre Neymar aujourd'hui au centre de son projet et compter sur le fait que Neymar soit un homme qui fasse passer un projet dans une autre dimension. Et on va voir la conséquence directe de tout ça, Julien, c'est en fait que finalement, les portes de sortie qui s'offrent à Neymar, elles sont très très limitées. On a cité un club et notamment Thiago Silva qui a refait un peu de lobbying pour son coéquipier. C'est le cas de Chelsea qui se cherche des ailiers avec Thomas Tuchel qui connaît Neymar et qui a peut-être réussi en 2020 au moment du Final 8 à se rapprocher le plus du Neymar qu'on avait vu du côté du FC Barcelone. Mais est-ce que Chelsea va faire tous ses efforts financiers pour Neymar? C'est un grand question mark, Julien.
Oui, c'est là qu'on voit que le PSG applique des grilles salariales qu'aucun autre club au monde applique, parce qu'on sait que la Première Ligue est dans un autre monde, on va avoir l'occasion d'en reparler en fin d'émission. On sait qu'ils n'ont pas de problème d'argent, mais quand vous regardez le salaire de Neymar et le salaire du joueur le mieux payé de l'effectif de Chelsea, par exemple, à savoir Lukaku, bah c'est du simple double, tout simplement. Lukaku touche quasiment 2 fois moins que Neymar en salaire net, hors prime de résultats et de performances. Donc, globalement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est certainement pas l'indemnité de transfert, parce qu'il faut bien comprendre que ces fameux 222 millions d'euros injectés par le PSG en 2017, ils sont complètement amortis, en tout cas d'un niveau du point de vue comptable, parce que c'était sur un contrat de 5 ans et que ce contrat de 5 ans, maintenant, il est terminé. Donc, je pense que le PSG aujourd'hui serait capable de lâcher Neymar pour une somme, tu l'as dit, pour prendre une fourchette large, entre 50 et 100 millions d'euros, même si je ne serais pas étonné qu'à 60 ou 70 millions d'euros, le PSG s'en contente largement. Mais le problème, c'est que Neymar, lui, il n'a probablement pas l'intention de baisser son salaire, en tout cas pas dans des proportions importantes, et qu'aucun club au monde n'est capable, si ce n'est le PSG, de le satisfaire sur ce plan-là. Donc, c'est pour ça que Neymar est invendable, ce n'est pas pour sa valeur sur le marché, mais plutôt pour son salaire.
En fait, c'est intéressant parce que l'argument financier, évidemment, joue beaucoup. Imaginez que Chelsea est un club avec un nouveau propriétaire qui veut frapper fort sur le marché. Et pourtant, déjà pour Chelsea, l'aspect financier pose problème. Alors, imaginez-vous pour la Juventus Turin, qui a galéré ces dernières saisons à monter des montages et à. Voilà, quand on sait qu'Adrien Rabiot, qui touche 7 millions d'euros à l'année, pose problème à la Juventus Turin. Imaginez Neymar à les 38 millions d'euros à l'année. Bon, bah voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, la Juventus, c'est non. Manchester United, c'est non. Et surtout avec le projet de Ten Hag, même si financièrement, ça pourrait aller, il y a quelque chose de philosophique presque qui ne colle pas. Le FC Barcelone, on n'en parle même pas. Il galère à signer Robert Lewandowski et à prolonger certains joueurs. Donc là encore, imaginez Neymar faire son retour au Barça, impossible. Donc pour moi, la seule possibilité, c'est Chelsea, éventuellement, même si j'y crois assez peu, ou Newcastle, qui pour le coup, là, a une surface financière suffisante, a une volonté politique aussi de frapper un grand coup. Mais est-ce que Newcastle va vouloir aller chercher Neymar? Et surtout, est-ce que Neymar serait réceptif à une offre de Newcastle? J'ai quand même un gros doute. Donc, pour moi, toute cette histoire, ça me fait penser à un couple qui va être un peu condamné à continuer sa vie ensemble, un peu à contre-cœur, parce que finalement, Neymar, il est dans une prison dorée et il ne va pas pouvoir s'en extraire tout de suite. Il y a une solution qui a été envisagée par la presse espagnole qui, moi, me paraît délirante, c'est la possibilité de prêter Neymar pour qu'il reprenne un peu de valeur sportive et donc sur une saison loin du PSG, il arrive à remontrer des choses à même de refaire grimper sa valeur, mais prêter Neymar, c'est inimaginable pour moi. Donc voilà, la seule solution pour Neymar et pour le Paris Saint-Germain, c'est que Neymar reparte sur des bases nouvelles au Paris Saint-Germain. Tu l'as dit, ce sera l'énorme défi de Christophe Galtier. Voilà, on attend surtout de Neymar une saison complète de constance parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses de sa part, malgré tout, au Paris Saint-Germain. Mais on a encore, cinq ans après, on est encore largement, on reste largement sur notre fin.
Et d'ailleurs, toute petite précision, le prêt, même si dans un monde idéal pour tout le monde, fonctionne, ça ne changerait pas le problème. Ouais. Effectivement, il reprendrait de la valeur sur le plan de l'indemnité de transfert, d'une éventuelle indemnité de transfert, mais son salaire poserait toujours problème. Alors, il permettrait de le justifier un petit peu plus, mais encore une fois, il n'est dans aucune grille salariale d'aucun club au monde, Neymar. Donc, globalement, ça n'a d'intérêt ni pour le PSG, ni pour le joueur, et ni pour un éventuel club qui voudrait l'acheter.
Ce qui est terrible, et on terminera là-dessus, Julien, c'est qu'on l'a dit, son contrat va se prolonger automatiquement jusqu'en 2027. Neymar a 30 ans, donc Neymar potentiellement est lié au Paris Saint-Germain jusqu'à 35 ans. Est-ce qu'à un moment sportivement, ça va vraiment devenir un problème? Parce que, encore une fois, Neymar, à 100%, évidemment qu'il a sa place dans l'équipe type du Paris Saint-Germain, malgré toutes les critiques, etc. Ça reste un joueur hors norme. Est-ce que Neymar, à 34 ans, sera toujours un joueur hors norme qui a sa place dans une équipe qui joue le titre en Ligue des Champions? On demande à voir. Et surtout, est-ce qu'il aura l'envie de continuer jusque-là? On a vu que récemment, il y a eu beaucoup de prises de parole de sa part sur un mal-être quant à sa profession et à son identité de footballeur professionnel. Ça pose beaucoup de questions et cet engagement de long terme enferme un peu plus Neymar au Paris Saint-Germain. Donc wait and see, mais Neymar l'invendable, ça y ressemble quand même fortement.
Absolument, d'intransférable à invendable.
Exactement, très belle. C'est beau ce que tu nous dis, Julien. Il y a un joueur qui, lui, est transférable, il est même libre comme l'air. C'est Ousmane Dembélé, Julien, et c'est notre deuxième sujet. Que doit faire Ousmane Dembélé? On va rappeler, Julien, que le Français est en fin de contrat avec le FC Barcelone. On est le 29 juin, à partir de demain, il est libre, complètement libre, même s'il était déjà libre de s'engager avec n'importe quel club depuis le 1er janvier. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que le Barça espère encore lui faire signer un nouveau deal. Il y a encore eu beaucoup de réunions ces dernières heures avec son agent et le board barcelonais, des réunions où on a senti un petit peu l'ombre de Xavi planer, puisque Xavi s'attache aux joueurs. Ma question, toute simple, Julien, à tes yeux, que doit faire Ousmane Dembélé?
Globalement, il n'y a que deux possibilités, c'est rester au FC Barcelone ou aller voir ailleurs, et probablement à Chelsea, puisque c'est la seule destination qui semble possible, à la fois sportivement et financièrement. Ouais. Mon avis personnel, c'est que la meilleure solution pour lui, on parle bien du point de vue du joueur, serait d'aller voir ailleurs et pourquoi pas de tenter sa chance à Chelsea. Parce que j'ai tendance à penser que si ça n'a pas marché jusqu'à présent au FC Barcelone, il y a peu de chances qu'avec un nouveau contrat dévalué, ça finisse par marcher. Alors oui, à l'argument de Xavi, oui, a priori, il y a un feeling entre le joueur et l'entraîneur. Oui, l'entraîneur est convaincu que Dembélé peut être encore au cœur du projet du FC Barcelone. Il n'empêche, je pense que Dembélé fait partie de ces joueurs qui ont à la fois besoin d'un cadre au sein du club, qui ont aussi besoin d'un cadre à l'extérieur du club. Et je ne suis pas certain qu'il puisse le trouver au FC Barcelone, pour la simple et bonne raison que le FC Barcelone a autre chose à faire que de concentrer toute son attention sur Ousmane Dembélé. Pour moi, Chelsea, c'est la bonne solution, parce qu'il va y retrouver un homme qu'il connaît bien, c'est Thomas Tuchel, et surtout un homme qui le comprend, ouais, et qu'il est peut-être jusqu'à aujourd'hui le seul entraîneur à l'avoir compris. Retrouver un nouvel environnement avec un club qui peut le satisfaire sur le plan du salaire, puisque visiblement c'est ce qui bloque depuis des mois maintenant au FC Barcelone, ouais, et dans un environnement concurrentiel, parce que Dembélé, grosso modo, à Chelsea, il aura tout à prouver. Au FC Barcelone, il jouit quand même d'un certain statut, parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences absolument énormes. On l'a encore vu ces 6 derniers mois, d'ailleurs. Sauf qu'à Chelsea, il repart de zéro, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a une équipe qui a un vrai projet de jeu, il y a un entraîneur qui connaît. Donc pour moi, tout colle pour que Ousmane Dembélé tente sa chance, pardon, à Chelsea.
Alors, moi je suis pas tout à
Je
fait
sais que tu n'es pas
d'accord.
convaincu.
Non, je suis pas d'accord avec toi, Julien. Et pour moi, la logique voudrait que Dembélé écoute enfin le côté sportif et ne se laisse plus guider uniquement par un choix financier que semble privilégier son agent. Alors, l'offre de salaire du FC Barcelone, elle est à 6 millions net annuels à peu près. Ça reviendrait à diviser son salaire par deux. Évidemment, ça peut se comprendre et effectivement, une offre anglaise et notamment de la part de Chelsea serait de nature à être bien plus élevée que celle du FC Barcelone. Sauf qu'au Barça, il aurait une place centrale dans un projet de renouveau. Alors, je suis d'accord avec toi, on n'a pas encore vu ce qu'on aurait dû voir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Il n'empêche que sur les 6 derniers mois, moi, j'ai vu ce que je voulais voir d'Ousmane Dembélé et Xavi également. Pour moi, le mot-clé là-dedans, c'est évidemment Xavi. C'est l'entraîneur qui peut et qui doit emmener Ousmane Dembélé ailleurs. Il n'a cessé depuis son arrivée. Alors, il y avait aussi la question contractuelle, mais malgré tout, il n'a cessé depuis son arrivée de mettre en valeur Dembélé, de lui donner des clés. Et quand vous voyez la deuxième partie de saison de Dembélé, il termine quasiment meilleur passeur de Liga, si je ne dis pas de bêtises, alors qu'il joue que 6 mois. Ça vous dit à quel point il peut être primordial dans le football pratiqué par le FC Barcelone de Xavi. Imaginez que vous mettez un certain Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque, ça peut encore faire gonfler et surtout, c'est plutôt complémentaire à mes yeux. Et surtout, pour moi, presque le plus important, c'est que c'est le choix du cœur. Depuis le début, Ousmane Dembélé, il laisse filtrer cette envie-là de rester au FC Barcelone parce qu'il aime bien ce club, parce qu'il est amoureux de ce club, parce qu'il aime l'environnement barcelonais et qu'il se sent bien, tout simplement. Donc, on sait que c'est Ousmane Dembélé, c'est un affectif. À partir du moment où il se sent bien, où il a des bonnes ondes avec son entraîneur, évidemment que ça va être beaucoup plus simple. Donc oui, il y aura toujours ce risque des petites blessures, ces choses-là, mais moi, j'ai encore envie d'y croire pour lui au FC Barcelone et surtout, encore une fois, l'herbe n'est pas forcément beaucoup plus verte ailleurs. En arrivant en Première Ligue, lui qui est plutôt sujet aux blessures, je ne suis pas sûr que ce soit la ligue la plus simple de ce point de vue-là. Donc voilà, moi je pense que Xavi a donné un nouvel élan à Ousmane Dembélé et qu'il doit surfer dessus. Il doit absolument rester au FC Barcelone et participer au renouveau de ce club parce qu'il peut être l'une des figures majeures de ce club-là. Et voilà, on sait ce que c'est que d'être l'une des figures majeures du FC Barcelone. Autant pour l'équipe de France que pour des choses beaucoup plus honorifiques, ça permet de devenir rapidement l'un des meilleurs joueurs du monde. Moi, je suis convaincu qu'il en a encore le potentiel, Xavi également. Donc, je demande qu'à voir ça mis en musique, quoi.
Tu parlais de ce qui pollue la carrière d'Ousmane Dembélé, à savoir ses blessures à répétition. En fait, il y a pour moi deux manières de voir ça. C'est soit les blessures sont une conséquence, soit les blessures sont une cause. J'ai plutôt l'impression que chez Ousmane Dembélé, ce sont des conséquences de sa discipline, de sa rigueur, de sa vie à l'extérieur du club. Et donc, je pense que justement, la Première Ligue, avec le niveau d'exigence qu'il faut pour performer en Première Ligue, d'ailleurs demander à n'importe qui a évolué en Première Ligue, y compris Thierry Henry, quel est le plus difficile entre gagner la Ligue des Champions et gagner la Première Ligue, ils vous répondront la Première Ligue.
Bien sûr.
Donc je pense que c'est justement parce que la Première Ligue est le championnat le plus exigeant au monde que Dembélé peut enfin vraiment se mettre dans le bain, enfin se focaliser sur sa carrière et enfin retrouver durablement les performances qui sont les siennes quand tout va bien.
Mais pourquoi c'est interdit ça au FC Barcelone? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que déjà, il n'a que 25 ans, rappelons-le. Alors, il a sans doute fait des erreurs de jeunesse comme beaucoup. Mais malgré tout, peut-être qu'à un moment, il va arriver à un âge de maturité où il va comprendre certaines choses importantes. Même si au FC Barcelone, Lionel Messi s'est évertué à lui répéter pendant de longues saisons. Mais je ne vois pas en quoi cet argument du professionnalisme s'appliquera plus à la Première Ligue qu'à la Liga. À partir du moment où l'entraîneur autour de lui fait comprendre et lui fait passer les bons messages, comme c'est le cas à mes yeux avec Xavi, ça peut aussi marcher en Liga.
Ouais, j'ai tendance à penser que si ça n'a pas marché jusqu'à présent, ça ne marchera probablement pas à l'avenir, et que c'est le changement d'environnement qui peut aussi créer le déclic, notamment avec Thomas Tuchel.
J'ai l'impression qu'on ne va pas être d'accord
On ne sera
sur
pas
ce
d'accord,
sujet. On ne
c'est
sera pas
clair.
d'accord. Sur le sujet Dembélé, sachez qu'il y a encore des réunions qui vont s'accélérer et qui vont se multiplier dans les heures qui viennent du côté de Barcelone. C'est un petit peu un dossier qui traîne depuis décembre. On attend de voir la résolution. Est-ce que Dembélé va privilégier un autre projet, notamment salarial, ou est-ce qu'il va faire le choix du cœur? On verra ça dans quelques heures. Voilà. Et suivez ça sur eurosport.fr. Julien, on va passer à un dernier sujet qui nous tenait à cœur dans ce mercredi mercato. On va parler d'abord d'un homme qui symbolise un petit peu, j'allais dire la dérive du football anglais, je ne sais pas si c'est le terme est adapté, mais c'est Calvin Phillips, milieu de terrain international de Leeds, façonné par Bielsa presque, ou en tout cas révélé grâce à Bielsa, qui va rejoindre Manchester City pour plus de 50 millions d'euros. Pour que vous preniez conscience de ce que représente ce prix-là, on vous a dressé le top 10 des joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Calvin Phillips, avec ce transfert-là, il va détrôner Rio Ferdinand, mythique défenseur de Manchester United, et donc rentrer dans le top 10 des joueurs anglais les plus chers de l'histoire, un top 10 dominé depuis la saison passée par Jack Grealish pour 118 millions d'euros presque, ou 117,5 si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
On va se poser une question à la vue de ce classement. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas justifié jusqu'à présent le prix exorbitant qu'ils ont coûté. Je pense à Maguire, je pense à John Stones, je pense à Aaron Wan-Bissaka, mais même à Jack Grealish au fond. Une question pour toi, Julien. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tous les joueurs anglais sont systématiquement surcotés, surpayés et atteignent des prix qui ne correspondent pas du tout à leur valeur intrinsèque?
Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment la santé économique des clubs de Première Ligue et la superpuissance de la Première Ligue sur le plan financier. On va avoir l'occasion d'en reparler plus en détail. Il y a également une règle qui est un petit peu moins connue,
ouais,
qui s'appelle la home ground rule. Tu salueras mon accent anglais,
absolument,
Cyril, toi qui es parfaitement bilingue. Qu'est-ce que c'est? C'est une règle tout simplement qui stipule que sur un effectif de 25 joueurs, les clubs de Première Ligue ne peuvent pas avoir plus de 17 joueurs entre guillemets, non locaux.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que le terme non locaux? Qu'est-ce qu'un joueur local? C'est un joueur qui a été inscrit dans un club de Première Ligue durant au moins 3 saisons avant ses 21 ans. Donc, ce n'est pas forcément un Anglais. On peut prendre l'exemple de Paul Pogba, qui est arrivé à 16 ans à Manchester United et qui, du coup, était considéré comme un joueur local. Donc, globalement, c'est une règle qui a été créée, instaurée en tout cas en 2015, pour favoriser l'épanouissement des joueurs anglais et pour permettre à la sélection anglaise de redevenir compétitive sur le plan international. Donc, ceci explique cela. Tout simplement, Manchester City, en tout cas tous les grands clubs de Première Ligue, sont aujourd'hui obligés d'avoir des clubs locaux, en partie anglais, mais en tout cas formés en Angleterre.
Ouais.
Et vu que ce sont des joueurs qui sont quand même assez rares pour être au très très haut niveau, il s'arrache à prix d'or, simplement.
Il y a plusieurs choses. Donc, tu l'as dit, effectivement, le côté rareté est important, même si le football anglais commence à émerger au niveau des jeunes et à remporter certains trophées, donc à mieux travailler en termes de formation. Les très bons joueurs anglais, qui donc pourraient rejoindre les très grands clubs anglais, restent finalement assez rares. Et surtout, ces grands clubs anglais, ils ont aussi un petit déficit d'incarnation. Repensez le modèle des années 2000. Chelsea, il y avait Lampard, il y avait John Terry. À Manchester United, il y a eu Wayne Rooney. Ou à Liverpool, il y a eu Steven Gerrard. Ces joueurs-là, ils incarnent quelque chose. Et c'est quelque chose de très important pour ces clubs-là d'avoir un symbole un petit peu national à mettre en avant et d'avoir des joueurs du cru à mettre en avant pour les raisons que tu as avancées également, qui sont des raisons beaucoup plus législatives, enfin en tout cas réglementaires. Malgré tout, ça reste un marché complètement parallèle. Là, on vous a dressé le top 10. Moi, je vais vous donner 3 noms et soyez honnête avec vous. Est-ce que vous connaissiez ces joueurs avant que je vous donne leur nom et surtout leur prix d'achat? Il y a eu Ollie Watkins, qui est un joueur, qui est un joueur d'Aston Villa, qui a coûté 34 millions d'euros. Joe Willock, qui a rejoint Newcastle pour 29,4 millions d'euros. Et Ryan Brewster, qui joue désormais à Sheffield, qui a coûté 26 millions d'euros. C'est des joueurs qui étaient jeunes, certes, qui évoluent aussi à des postes d'attaquants qui font naturellement grimper les prix, mais qui défient complètement la logique du marché parce que c'est des joueurs qui n'ont rien prouvé au niveau international, qui n'ont quasiment jamais joué de Ligue des Champions. Et malgré tout, ils sont vendus, ils font partie du top 30 des joueurs anglais les plus chers de l'histoire. Ça vous prouve à quel point ce marché ne résonne pas de la même façon que les autres. Et surtout, il y a un point très important, Julien, tous ces transferts-là, ils se font forcément entre clubs anglais. Si vous prenez le cas de Calvin Phillips, il va partir de Leeds, club anglais qui n'a pas besoin d'argent, vers Manchester City, club anglais qui a beaucoup d'argent. Donc forcément, ça fait grimper l'addition et ça donne ces montants décorrélés du reste du marché. Et fatalement, on a l'impression que c'est quelque chose qui va continuer. On sait que la Première Ligue est assise sur un tas d'or et que ce n'est pas prêt de s'arrêter, notamment via les droits TV, Julien.
Oui, tu disais, Leeds n'a pas besoin d'argent, comme la plupart des clubs anglais, pour Exactement. La simple et bonne raison que les droits TV de Première Ligue continuent de croître, ce qui est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques mois par la plupart des économistes, parce que évidemment, on attendait un vrai recul, en tout cas, on s'attendait à ce que les droits TV se tassent après la crise du Covid. Et bien, la Première Ligue, ce n'est pas le cas. Elle vient de dépasser la barre symbolique des 10 milliards de livres pour ses droits à l'international, rendez-vous compte. Tu donnais les exemples des trois joueurs que tu as cités. Pour donner un point de comparaison, ces trois joueurs-là, ils seraient pour la plupart les joueurs les plus chers de l'histoire de tous les clubs de Ligue 1 en dehors du Paris Saint-Germain. Ça donne quand même un ordre d'idée et ça montre que la Première Ligue évolue dans une autre sphère. Et surtout, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Ça risque de continuer. Et ceux qui vont en payer le prix, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est plutôt les autres championnats parce que si vous avez un bon joueur et qui souhaite gagner plus d'argent, il ira vers n'importe quel club de Première Ligue et vous ne pourrez pas vous aligner. C'est un petit peu ce qui se passe dans plusieurs grands clubs. On pense au club italien notamment, l'AC Milan, qui ne peut plus offrir des salaires qui sont très très importants, toute proportion gardée, et qui du coup voit certains de ses joueurs profiter d'éventuels intérêts de clubs de Première Ligue pour faire monter les enchères.
Moi, ce qui m'intéresse aussi et ce qui m'interpelle peut-être dans le classement qu'on a vu, c'est un petit peu la surreprésentation des deux clubs de Manchester pour des raisons diverses. Manchester United, ça fait 7 ans qu'on ne comprend pas trop le projet et que même, je pense, navigue à vue et chaque saison, le projet change. Et donc, ils ont investi des sommes folles sur des joueurs anglais qui étaient confirmés en Première Ligue, certes, mais qui n'ont pas apporter un upgrade complet et immédiat à leur équipe. Je pense évidemment à Harry Maguire qui était à l'époque le défenseur le plus cher du monde. Mais même Wan-Bissaka ou Luke Shaw, voilà, c'est des joueurs qui ont été payés très très cher et que Manchester United se trimballe encore aujourd'hui sans trop savoir quoi faire. Et le cas d'Harry Maguire, c'est exactement ça, c'est qu'ils l'ont payé tellement cher qu'ils ne peuvent pas se permettre de lui dire « écoute, tu vas sur le banc », alors que potentiellement, il aurait pu le mériter cette saison, vu la saison qui vient d'offrir. Pour le cas de Manchester City, c'est encore différent, c'est que là, on est sur un club qui se construit complètement et avec une philosophie exportée d'ailleurs, entre guillemets. On n'est pas du tout sur un club formateur ou en tout cas, dès qu'ils forment des joueurs, hormis Phil Foden, il y a plutôt tendance à les prêter ailleurs ou à les faire grandir ailleurs, donc qui récolte pas le fruit de sa formation et qui surtout s'appuie sur un modèle de joueurs étrangers très important. Donc un joueur comme John Stones, par exemple, il est primordial qu'il reste à Manchester City, pour les raisons qu'on a évoquées, notamment réglementaires. Malgré tout, le prix acheté à l'époque défie un peu toute logique. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'ici, on ne voit pas, on voit très peu Chelsea. Pourquoi ? Parce que Chelsea est un excellent club formateur et a réussi ces dernières années à faire émerger au sein de son effectif professionnel des jeunes joueurs qui apportent immédiatement à l'équipe première. Et puis, il y a Liverpool qui, lui, est dans un cas un peu à part. Qui finalement est déjà presque à la limite de cette home ground rule, puisque la saison passée, ils avaient 17 joueurs étrangers dans leur squad de Première Ligue, et donc uniquement 7 joueurs anglais. Ils sont un peu à la limite et ils jouent un petit peu avec cette règle, parce qu'eux, ils ne veulent pas forcément rentrer dans cette logique-là. Ils préfèrent aller payer plus cher des jeunes joueurs qu'ils ont observés à l'étranger, on pense à Darwin Núñez, plutôt que de surpayer des joueurs anglais, mais peut-être un peu plus limités, ou en tout cas à la croissance plus limitée.
Absolument, c'est toute la limite de cette règle, c'est qu'un club peut décider de dépasser les fameux 8 joueurs locaux, Mais la conséquence, c'est simplement que son effectif sera réduit à 24, 23, 22 joueurs en fonction du nombre de sacrifices entre guillemets qu'ils font. Et donc oui, Liverpool préfère payer très cher des joueurs dont il est certain de la valeur, plutôt que des joueurs entre guillemets moyens, en tout cas qui ne font pas partie des tout meilleurs ou des références à leur poste, et de les surpayer, comme tu l'as dit, comme plusieurs joueurs que tu as cités, notamment Harry Maguire.
Voilà, j'espère qu'on a été clair en podcast. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à aller sur le site d'Eurosport.fr. Il y aura des petits visuels pour accompagner la réflexion et accompagner l'explication. Julien, on arrive à la fin de
C'est
ce
le moment.
mercredi mercato, mais c'est presque le point culminant. C'est-à-dire qu'on a décidé chaque semaine que le moment le plus important de l'émission, c'était devenu le Merca Quiz. Pour ne rien vous cacher, Julien part en vacances la semaine prochaine, c'est ça, Julien? Donc
Il
là,
restera une émission quand même la semaine
ah, il
prochaine.
restera, ok, d'accord.
Mais je
Là,
peux
il
pas
a
me
la
permettre de perdre,
pression. Voilà, il ne
grosso
faut pas se
modo.
permettre de perdre parce que ça voudrait dire qu'il partira en vacances largement mené. On va voir ce que ça donne et on accueille surtout Quentin Guichard, notre graphiste.
Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver pour cette quatrième manche du Merca Quiz. Cyril, déjà une balle de break,
Alors,
puisque tu
je peux me
mènes.
permettre de dire deux choses quand même. On
Il
t'écoute.
commence déjà, il commence
Ça y est,
déjà.
non,
Ça
mais
va
attends.
se plaindre, ça y est.
La première, c'est que je pense que les gens ont une image plutôt sympa de Cyril, parce qu'il a l'air gentil, doux et tout ça. Sachez qu'il est infernal en off et que ça fait une semaine qu'il me tanne avec le score du Merca Quiz. La deuxième chose. Il gagne 2-1, mais je voulais quand même préciser qu'il prend un point la semaine dernière en citant deux noms qu'il n'arrive toujours pas à prononcer.
Oui, mais
Ça, c'est
ça,
pas faux.
c'est pas faux, c'est pas faux, c'est vrai. Écoute,
Personnellement, j'aurais donné qu'un demi-point, mais après, bon, c'est
non,
pas
mais il
moi
n'y
qui
a
fais
pas
les
de
règles, mais peu importe.
demi-point, non, non. On rappelle par contre, Quentin, tu nous confirmes qu'on garde notre petite règle chérie, c'est-à-dire qu'on peut partir sur un coup à blanc, un nom, sans indice,
Moi,
si on
j'en ai
gagne
pas
ces deux points.
préparé. Allez, bien
Allez,
sûr, bien
vas-y.
sûr,
Allez,
j'en ai un.
allez, vas-y, Julien, c'est toi qui lances le premier.
Ça sera Costas Mitroglou pour moi.
C'est pas du tout ça. Non.
Moi, ce sera
Croyez pas.
Benjamin André.
Bien tenté, mais non plus. Non
Ah,
plus.
dommage, j'ai voulu surfer sur ta fibre bretonne. Eh bien,
Je
Quentin,
comprends.
la parole est à toi.
Je suis né à Chambéry, où je commence la pratique du football au FC Villargondran,
Olivier
dans la
Giroud.
vallée de la Maurienne, à partir de
Non.
2003. J'y joue durant 2 saisons, avant d'intégrer en 2005 le CA Maurienne Football à Saint-Jean-de-Maurienne. Je cherche alors à intégrer le centre de formation de l'Olympique lyonnais, mais je ne suis pas retenu. En 2009, à l'âge de 15 ans, je suis recruté par l'Estac, dont j'intègre le centre de formation.
Renaud Ripart. Non,
Je
pas du tout.
m'affirme comme l'un des meilleurs espoirs du club troyen, à l'instar de Corentin Jean, avec lequel je me lie d'amitié.
Blaise Matuidi. Non, Corentin Jean, c'est plus récent. Ok.
Appelé pour une détection en équipe de France des moins de 18 ans, je réalise une prestation que je juge a posteriori catastrophique et je ne suis plus rappelé par la suite. En janvier 2013, âgé de 18 ans, je fais mes débuts en Ligue 1 face au FC Lorient sur la pelouse du Moustoir. Je remplace Stéphane Darbion en fin de rencontre. Une première apparition chez les pros suivie d'une seconde 3 jours plus tard où je suis titularisé en Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot.
Attends, on est encore en 2013 là?
On est en 2013, ouais. Après avoir réalisé la préparation de la saison 2013-2014 avec l'effectif professionnel dirigé par Jean-Marc Furlan, je marque 3 buts durant le mois d'août 2013, 2 en Coupe de la Ligue et 1 contre le Nîmes Olympique en Ligue 2. Des performances qui convainquent le staff technique troyen. En septembre 2013, je signe un premier contrat professionnel de 3 ans en faveur de mon club formateur. Appelé en équipe de France des moins de 20 ans par Ludovic Batelli, je reste cependant cantonné à un rôle de joker. En championnat, je ne suis que rarement titulaire lors de mes 24 apparitions durant la saison 2013-2014. En fin de saison, je
Mais
suis
là,
de
c'est
nouveau appelé avec les moins de
malaise.
20 ans tricolores pour le tournoi de Toulon, mais une nouvelle fois, je ne dispute aucune rencontre.
Ouais, d'accord. Donc, faut qu'on trouve un joueur qui a jamais joué, en gros.
Lors de la saison suivante, ma progression est freinée par une longue série de pépins physiques. Je déclare même ne pas parvenir à enchaîner un mois sans blessure. Je ne suis ainsi titularisé qu'à une seule reprise par Jean-Marc Furlan durant la saison, en février 2015, à l'occasion d'une rencontre face au Gazélec
Il
Ajaccio.
faut qu'il change de club là. Moi, le 3 là, j'avoue
Ouais, c'est clair.
que.
Je ne participe donc que modérément au bon parcours troyen qui se conclut par un titre de champion de France de Ligue 2 et une remontée dans l'élite.
C'est récent.
Après un début de saison 2015-2016 où Furlan continue de me cantonner à un rôle de joker, je profite du départ de ce dernier, remplacé par Claude Robin, pour gagner ma place de titulaire. Je marque ainsi mon premier but en Ligue 1 contre Bastia en décembre 2015 sur une passe décisive de Jonathan Martins Pereira.
Bien sûr.
Avant de réussir un doublé et une passe décisive contre le LOSC.
Martins Pereira, je l'aurais trouvé, c'est dommage.
Pour le premier succès de la saison.
On est en 2015 là.
De mon club en championnat. Ouais. À cette période, alors qu'on m'annonce un peu partout en France, à Lille, à Lyon ou encore à Saint-Étienne, je choisis finalement de rejoindre le FC Lorient. Quelques jours plus tard, je suis buteur pour ma première titularisation lors de la réception de Montpellier. En fin de contrat au FC Lorient, à l'issue de la saison 2019-2020, je choisis de ne pas prolonger et me retrouve libre de m'engager là où je le souhaite. Je termine ainsi mon aventure lorientaise sur une montée en Ligue 1 acquise grâce à l'arrêt définitif de la Ligue 2 prononcé par la LFP et dû à la pandémie de Covid-19. En septembre 2020, libre de tout contrat donc, je signe à Angers.
Jimmy Cabot.
Putain
de... ça fait deux minutes que je suis sur lui et j'hésitais parce que ça me paraissait, les notes me paraissaient pas bonnes.
Alors il nous restait qu'une ligne dans le...
On était nuls.
Je l'aurais proposé, mais en fait, pour moi, c'était beaucoup plus vieux.
Non. Jimmy Cabot, ouais.
Allez là.
Ah là, c'est la honte, là.
Vamos.
Ah là, c'est la honte. On s'excuse auprès de Jimmy Cabot parce que pour le coup... Non, mais en plus, c'était évident.
Très gênant, là.
Et d'ailleurs, Jimmy Cabot, l'un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1, qui en termes de statistiques, pour ceux qui aiment les statistiques...
C'est pas parce que t'as gagné que tu dois nous le non plus.
Et j'invite tout le monde à aller checker ces statistiques. Et merci Jimmy, je t'aime.
Très bien,
grâce
très bien
à toi,
reconverti
j'égalise.
En piston, mais il m'a fait perdre le Mercacuiz, donc on l'aime beaucoup moins.
Signe-moi un maillot, Jimmy.
Alors, t'auras peut-être droit à un maillot dédicacé de Jimmy Cabot, mais en attendant, c'est... ça fait deux parties.
Ah là là, on a été pas bon.
En attendant, c'était pas lui. J'ai eu très...
Non, je suis vicieux, mais pas à ce point quand même. Voilà.
Ah, Jimmy Cabot, ouais. Je m'en veux beaucoup. Là, je vais ruminer toute la semaine. C'est terrible.
Le Mercacuiz de la semaine prochaine.
Ah ouais, il va coûter cher. Ou il va être, il va coûter très très cher.
Je vais venir en armure.
Eh ben, Quentin, je ne te remercie pas.
Je t'aime, Quentin.
C'est mon plaisir.
Il est resté longtemps à 3 quand même. Hein. Ça a duré longtemps cette séquence. Hein.
Ouais. C'était très très long cette période troyenne.
Bon, eh ben, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mercacuiz et pour une nouvelle émission de mercredi Mercato.
Merci Cyril.
Non, Julien, ne commence pas. J'ai entendu ta voix de Minitel là. Ça va pas le faire. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de mercredi Mercato. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast ou en vidéo sur le site d'eurosport.fr. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.
Ciao.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.